RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Jusqu'à 21h, l'Intégral Tour sur RMC. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 20h03. Bourgui est là à mes côtés. Salut Bourgui.
Salut Arnaud.
Lucho également au bout du fil. Salut Lucho.
Salut à tous les deux.
Messieurs, salut Lucho. Tous ensemble avec vous au 32-16 sur Direct Studio sur le hashtag RMC Live. On va revenir sur ce qui nous a bien fait plaisir. Il faut quand même le dire quand on est français. Un petit cocorico, ça fait pas de mal de temps en temps. 16e étape aujourd'hui du Tour de France. Carcassonne, Bagnères de Luchon. 218 km à travers l'Occitanie. 218 km dominés de main de maître par Julian Alaphilippe qui s'était déjà imposé lors de la 10e étape. C'était du côté du Grand Bornand. Première étape alpestre pour lui ce jour-là. Et donc première étape pyrénéenne aujourd'hui. On a apprécié, on a adoré, il a consolidé son maillot à poids. On va largement lui rendre hommage ce soir. À partir de 20h30, on débroussaillera l'actualité du football. On parlera du Paris Saint-Germain. On parlera également de toute l'actu Mercato. Vous retrouvez déjà toutes les infos du jour, notamment Malcolm, notamment João Moutinho, notamment les déclarations du président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, sur notre site rmcsport.fr. Et puis dans quelques secondes, on sera avec Sylvain Chavanel, le coureur de la Direct Énergie. Ça, c'est le vélo. 18e participation pour lui sur un Tour de France. C'est un record et il est en passe de le boucler, ce Tour de France 2018. On lui demandera des nouvelles. On lui demandera peut-être s'il n'a pas envie de participer à un tour de plus. Pourquoi pas l'an prochain, même si je crois que c'est pas forcément dans les cartons. C'est parti pour l'Intégral Tour. Julian Alaphilippe qui s'offre un doublé, messieurs.
Oui.
Eh oui. Après sa victoire en Grand Bornand. Qui l'eût cru? Franchement, bah, qui l'eût cru? Toi, tu l'eût cru puisque t'avais parié dessus.
J'ai parié dessus parce que je trouvais que ça lui allait trop bien, ce final. D'autant plus que, en défendant, son maillot à poids, il était obligé de se trouver devant. Du moins, il avait grande chance de se trouver devant. Et, forcément, des cols qui sont pas très longs comme ça. Et, avec la giclette qu'il a eue, franchement, on a vu aussi que c'était un très très grand descendeur. Il prenait le virage avec le genou sorti comme en moto. Franchement, ça déboulait, c'était beau et ça a fait peur à pas mal de gens.
Oui, ça a fait peur à pas mal de gens, effectivement. Moi, le premier, en tout cas, ça n'est pas sans faire penser aux plus grandes heures, on va dire, des baroudeurs du Tour de France. Tiens, on est justement, en parlant de baroudeurs, enfin, ça serait un très court résumé pour une si grande carrière. On est avec Sylvain Chavanel, justement, le recordman du nombre de participations sur le Tour de France. 18e participation pour lui, le coureur de la Direct Énergie. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir à toute l'équipe.
Et merci, salut, merci d'être avec nous. On est obligé
Bravo pour ta carrière, Sylvain. Ben, voilà, non, mais bon, je voulais le dire quand même parce que t'es un exemple pour tous.
Ah bien,
t'es tellement sympa.
Et c'est Luc. Ouais, merci.
C'est Luc. Oui,
c'est Luc.
Ouais.
Merci. Mais j'ai pas annoncé encore ma fin de carrière. Non, je rigole.
C'est ton début de carrière. C'est ton début de carrière, mais exceptionnel.
Déjà pour tout ce que tu as fait pour le vélo.
Oui, bah après voilà, comme je le disais au début de ce Tour de France, je cherche le plaisir. Donc le plaisir, c'est quoi? C'est de passer des kilomètres sur les étapes à l'avant. Et voilà. Bon après, j'ai manqué le coche aujourd'hui, 50 mecs devant. J'ai été pas représenté, donc un peu déçu. Mmh. Mais il y a de la fatigue, hein. Il y a de la fatigue et à mon âge, on récupère plus comme à 20 ans.
Ah oui,
ça c'est vrai.
Vous avez 39 ans, Sylvain, 18e participation.
Et puis, entre nous, après la journée de repos, les journées de repos me font pas du bien. La première journée de repos, le lendemain, c'était l'étape à 100 000 mètres de dénivelé avec le col de la Madeleine. J'ai énormément souffert. Là, j'étais super bien au début de course et après 2 heures, j'étais vidé. J'ai beaucoup donné pour aller dans les coups. J'étais vidé, j'ai passé un sale quart d'heure et je me suis refait la cerise et à la fin, j'étais limite bien.
Comment vous le vivez plus généralement, ce 18e Tour de France, Sylvain?
Mais en fait, je me disais que c'est comme les autres Tours de France. Je me rends pas compte, même en disant souvent que c'est mon dernier, je me rends pas compte parce que je suis dans ma petite bulle, je fais mon parcours. Voilà, et... à vos collègues, à certains de vos collègues, dans différentes interviews, et ben là, je commence à réaliser petit à petit que, c'est la fin. Donc la page se tourne.
Sylvain, c'est Thierry Bourguignon. Mais oui. C'est effectivement le dernier? T'es vraiment sûr du dernier?
Non, je vais arrondir à 20.
Eh ben oui, ouais.
Ça en fait encore deux, ça.
Hein. T'aimes bien les controns, tu vas bien nous faire deux tours de plus.
Je reviendrai pas dessus. À un moment donné, il faut savoir tourner la page. Et j'aime bien expliquer. C'est comme quand vous lisez un bouquin, vous arrivez à la dernière page, il y a plus de page après. Donc, faut savoir tourner la page. et passer à une nouvelle histoire. Et voilà, donc je suis à la fin.
Mmh. Oui, mais donc, à la fin du tour, mais fin de carrière,
et,
non.
Et je veux juste préciser que c'est un luxe de pouvoir aussi choisir. Voilà,
de partir.
Donc, j'ai le choix de dire, ben voilà, j'ai pas envie de refaire un Tour de France. J'ai pas le droit de me plaindre, en fait.
Vous allez l'annoncer officiellement, justement, votre fin de carrière. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, ou enfin, ça sera pas pour tout de suite. Vous savez pas trop encore comment ça va se passer.
Si, je sais ce que je vais faire. À la fin du tour, on en saura plus sur mon avenir. Mmh. Donc, est-ce que je vais continuer un an, est-ce que je vais arrêter, c'est la surprise.
Ouais, c'est quand même la seule surprise du tour.
Enfin, là, vous êtes quand même en train de nous dire, Sylvain, qu'a priori, vous seriez pas trop partant pour un tour de plus, quoi.
Ah, mais un tour, c'est pas une année de plus.
Pour un tour de plus, oui. Pour un tour de plus, non, c'est mon dernier. Mmh. C'est ce que j'ai dit. Ouais.
Mmh. Comment quel regard vous portez sur la nouvelle génération, notamment sur Julien Alaphilippe, justement?
Julien, je l'ai vu arriver, en fait, quand j'étais chez Quickstep. Il était dans l'équipe réserve, donc avec d'autres coureurs français, notamment Florian Sénéchal, et je l'ai vu arriver. Donc c'est quelqu'un qui a été mis de côté, préservé par l'équipe de Patrick Lefebvre, et aujourd'hui, bah voilà. On voit que c'est un phénomène, il sait tout faire, il sait grimper, il sait descendre. C'est un ancien crossman, donc il est très habile sur le vélo. Et voilà, tout ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui, c'est pas surprenant, parce que il aurait pu le faire l'année dernière, mais il a vécu aussi de grosses blessures, notamment sur un genou, je crois.
Ouais.
Donc il a eu des bas, et aujourd'hui, bah, il doit vivre un rêve.
Il paraît qu'à votre image, en plus, c'est l'un des coureurs les plus sympas du peloton. Vous confirmez, ouais, que c'est un coureur hyper sympa?
Moi, je l'apprécie énormément, parce que j'aime sa façon d'être sur un vélo. C'est-à-dire, il joue, et il sait être sérieux au bon moment. Et voilà, il a toujours la déconnade. Et ça, c'est important, parce qu'on voit tellement de coureurs sérieux, la tête dans le guidon. Parle pas beaucoup, voilà. Donc moi, je préfère voir un phénomène comme Julien.
Coureur triste.
Comment?
Le résumé que tu me disais, tu disais que tu voyais les certains coureurs qui étaient tristes.
Oui, voilà. C'est vrai. De plus en plus, hein. De très très sérieux, voilà. Donc, mais après c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai connu différentes générations, donc.
Toi, le t'es vélo, plutôt, t'es plutôt.
Très, très,
Tu es plutôt ancienne génération quand même au niveau de ta façon de courir, de t'exprimer, voilà. D'être voilà, dans la vie de tous les jours, quoi.
C'est sûr que ma façon de courir, tout ça, je vous cache pas que aujourd'hui c'est difficile de trouver sa place, parce que tout est maîtrisé de A à Z. Voilà, il y a très peu de place maintenant pour des coureurs comme moi. Donc c'est pour ça que je suis content de me rapprocher de la fin.
Sylvain Chavanel, vous avez parcouru, si j'ai bien compté ou si j'ai bien lu plus exactement, 60 000 kilomètres sur des routes du Tour de France depuis le début de votre carrière. Et pourtant, demain, vous allez découvrir quelque chose quand même, parce qu'une étape de 65 kilomètres entre Bagnères-de-Luchon et le col de Portet au-dessus de Saint-Lary, c'est tout simplement inédit. Inédit pour plusieurs raisons, cette espèce de départ, la façon cyclocross, et puis cette arrivée au col de Portet que personne ne connaît, en tout cas dans le monde du vélo. Il est plus connu dans le monde du ski, celui-ci.
Ouais, exactement. Ça fait partie de l'évolution de notre discipline, de notre sport. Moi, j'ai commencé ma carrière, je roulais sans casque. J'ai pas couru avec les quatre-pieds, mais j'ai mis une évolution incroyable. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'évolution, une étape hyper courte. Je trouve ça va être folklore. Je trouve ça génial de faire comme une grille, en fait, des sas. Après, ça va être une course très, très difficile. Ça va être un contre-la-montre. Et demain, je pense qu'il va pas y avoir de trop de sourires sur les lèvres.
Vous l'appréhendez, cette étape, Sylvain Chavanel?
J'appréhende, mais je pense qu'il y a des coureurs. J'espère qu'il y aura des coureurs qui ont plus mal aux jambes que moi.
Bon, ça va, vous vous en sortez bien encore dans les 40 premiers du classement général, je le disais, à moins d'une heure de retard de Geraint Thomas. C'est quoi vos objectifs là d'ici la fin du tour, justement? Ça va être compliqué pour vous désormais peut-être de briller, parce que là c'est vraiment les gros bras là. Hein.
Exactement, il y a pas grand chose à manger d'ici la fin.
Les Champs-Élysées,
L'étape de Pau, pourquoi pas, ça dépendra des sprinteurs, comment ils vont sortir de ces deux étapes difficiles dans les Pyrénées. Voilà, quand vous voyez aujourd'hui, c'était une étape de folie. C'est parti au bout de 2h30 de vélo.
Oui, ouais, c'est impressionnant.
On a fait 45 de moyenne, tout le monde se courait dessus. À un moment donné, j'ai baissé les bras, j'ai craqué mentalement. J'ai dit, allez, je retourne derrière, c'est parti. Voilà, faut jamais baisser les bras.
On vous souhaite bon courage, en tout cas, Sylvain, pour la fin de ce Tour de France.
Merci.
Salut Sylvain, bon courage.
Bon courage, Sylvain.
Et encore félicitations.
Merci à vous aussi.
Merci. Ouais. Bonne fin de semaine.
Voilà. Ciao, ciao. Sylvain Chavanel, le coureur de la Direct Énergie, qu'on félicite. Hein, forcément, 18 participations au Tour de France, c'est tout simplement un record. Et ah oui. Franchement, ça mérite. C'est vrai que, quand même, c'est impressionnant. Alors vous, ça vous fait pas peur parce que vous êtes encore plus ancienne école que lui. Mais quand il nous dit, moi, j'ai connu le peloton sans casque. C'est vrai qu'il avait fallu un accident dramatique au début des années 2000, sur le Paris-Nice pour qu'effectivement le casque devienne obligatoire.
Oui, mais des grèves, même des grèves. On a fait des grèves pour pas porter ce casque. Mmh. Et puis aujourd'hui, quand je vois des coureurs sans casque, mais même en croisant des cyclos sans casque, j'ai l'impression de découvrir un gars qui arrive de la Lune ou de Mars.
Bon, en tout cas,
on avait même réussi à demander à l'Union Cycliste Internationale, mais je sais plus en quelle année c'était, de retirer le casque dans le dernier col de la journée.
Ah oui. Oui, oui. Mmh. Bon, en tout cas, Sylvain Chavanel, voilà, qui court son dernier Tour de France, est un très grand monsieur, effectivement, le coureur de Direct Energy.
Avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz, simplifiez-vous l'énergie.
Allez, dans un instant, l'intégral tour continue avec Bourgui et Lucho. On va revenir quand même plus en détail sur la victoire de Julien Alaphilippe, parce que c'est bien beau de dire oui, il a fait une grande étape, mais peut-être se projeter encore plus vers l'avenir, parce que quand on voit ce qu'il est capable aujourd'hui de faire, quand même, de lâcher à la cuisse des Pozzo Vivo, des Bauke Mollema, des Yates, oui, bah c'est quand même pas mal, non? C'est quand même pas mal. Allez, ça promet pour la fin de saison. Faut avoir en mémoire quand même ces mondiaux à Innsbruck là fin septembre. Ça sera de la montagne, ça sera sur un jour, bah peut-être pourquoi pas Julien Alaphilippe pourrait-il faire quelque chose. On en parle.
Ouais, mais il a échappé de peu l'année dernière déjà.
Il a échappé, oui, sur un autre profil. On en parle en tout cas, messieurs, dans un instant, à tout de suite.
RMC Intégral Tour.
On est ravis de vous accompagner tous les jours pendant ce Tour de France, de refaire, non pas le match, mais de refaire les étapes. Il est 20h16, vous êtes bien dans l'intégral tour sur RMC, on est ensemble jusqu'à 21h, on revient sur la 16e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon, 218 km à travers l'Occitanie, bouclé et remporté par Julien Alaphilippe, le français de l'équipe belge Quick Step Floors. On en discute dans un instant avec Lucho et Bourgui. À quoi faut-il s'attendre justement pour l'avenir de Julien Alaphilippe, qui à 26 ans a déjà gagné énormément de belles courses. Et puis dans une quinzaine de minutes, tiens, on sera avec Clément Grenier, là c'est du football, on sera avec Clément Grenier, le joueur, le nouveau joueur du Stade Rennais, lui l'ancien milieu de terrain d'Olympique Lyonnais. Il a été présenté justement aujourd'hui à la presse sous son nouveau maillot. Il sera en direct sur RMC pour nous donner ses premières sensations. Justement, messieurs, je reviens, oui, parce qu'on a été coupé par le grand monsieur Sylvain Chavanel, on en était resté à Julien Alaphilippe qui s'offre ce doublé. Lucho, je me tourne vers toi. Déjà, c'est une bouffée d'air frais quand même pour le cyclisme français sur ce Tour de France, hein, qui franchement ne brille pas à part lui. Hein.
Bah, heureusement que des coureurs comme Julien sont là sur le Tour, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu. Hein. Bon, on n'est pas là pour non plus être mauvais par rapport au niveau de nos expressions, par rapport aux coureurs, aux leaders du Tour de France, hein, pas du tout, on n'est pas là pour les critiquer, mais si on n'avait pas des Julien Alaphilippe aux avant-postes et à faire la course comme il le fait depuis le départ du Tour de France, parce qu'il est toujours devant depuis le départ du Tour de France, quoi. C'est un truc, c'est énorme. Alors quand on regarde un petit peu le profil de l'étape d'aujourd'hui, eh ben on s'attendait à tout, mais pas à ça, quoi. Je veux dire, la bagarre de Julien avec les échappées devant, et puis pas de bagarre derrière. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, on parle de Julien, mais tu ne t'attendais pas à ça. Moi, je l'avais expliqué hier soir. T'as bien vu. Je t'avais dit le final comme ça. Il devait défendre son maillot à poids, aller chercher des points avec un final sur trois grimpeurs comme ceci, pas trop long. Idéal pour lui, avec une descente exceptionnelle comme il sait les faire. La victoire, c'est sûr que ça tient à pas grand-chose.
C'est pas une surprise, hein, Thierry, de voir Julien devant.
Ah ben c'est pas une surprise du tout. Non.
Mais tu vois, je te l'ai dit l'autre jour, hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais il me fait vraiment penser aux coureurs d'une certaine époque, pas de l'époque des années 2000, mais plus 80, 90, début des années 90, où vraiment s'attaquer de loin.
Il a peur de rien.
Il y a de la stratégie, mais Il n'est pas là, fort. Regardez, je ne sais même pas s'il a son capteur de puissance en plus, je ne crois pas.
Alors par contre,
il faudrait bien regarder.
Puisqu'on parle de ça, puisqu'on parle de courir à l'ancienne ou courir à la moderne, on se rend compte quand même qu'au moment où il dépasse Yates dans la descente du col du Portillon, il demande quand même des informations justement sur les écarts. Enfin, on imagine qu'il demande des informations sur les écarts. Il parle dans son micro, il a envie qu'on lui donne des infos dans l'oreillette. Hein.
Alors j'ai l'impression. Quand il passe Yates, il dit qu'il a regardé l'état de Yates pour savoir si c'était grave ou pas, et qu'il était réconforté. Alors est-ce qu'il a posé la question à son directeur sportif pour savoir si c'était pas trop grave? Mais en tous les cas, il a rien lâché jusqu'à l'arrivée.
Tu sais quoi, Thierry, j'ai eu l'impression à un moment donné, très honnêtement, qu'il était en train d'hésiter. Est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il y va pas? Est-ce qu'il doit attendre Yates?
Tu vois?
Mais j'ai eu l'impression. Pendant quelques secondes, j'ai eu cette impression-là parce qu'il se retournait tout le temps et il n'osait pas accélérer. Et puis quand il voyait qu'il restait 5 bornes, 4 bornes, il a dit oh là là, je vais pas prendre le risque. Bon, j'y vais. Mais à un moment donné, je crois qu'il y a eu une petite hésitation quand même de Julien de savoir un petit peu par rapport à Yates, s'il fallait pas
le. L'état de santé sur tout ça, parce qu'il le dit. Quand je suis passé, j'ai regardé l'état de Yates pour savoir si c'était grave ou pas.
Et la chute effectivement était à vitesse assez basse, on va dire, enfin tout est relatif, glissade, mais c'était glissade dans un virage, plus de peur que de mal pour Yates qui se classe d'ailleurs troisième de cette étape et derrière Gorka Izagirre, l'espagnol de Bahrain Mérida, qui lui s'est classé deuxième. C'est quand même deux victoires de prestige pour Julien Alaphilippe. Moi j'aimerais savoir un petit peu, j'aimerais que vous me disiez s'il est capable de mieux. Alors sans parler forcément de remporter un grand tour. Le druide Cyril Guimard tout à l'heure disait mais c'est un vrai grimpeur Julien Alaphilippe. C'est-à-dire qu'il est capable aussi de remporter peut-être une course d'une semaine, qu'il est capable de remporter les mondiaux en fin d'année à Innsbruck sur un terrain extrêmement accidenté.
Les mondiaux sûrement puisque l'an dernier il était à deux doigts de les remporter.
Oui, mais sur un terrain bien plus
la bosse
en finale elle était dure.
C'est quand même pas tout à fait la même mayonnaise que ce qu'il va y avoir cette année à Innsbruck, hein, les amis.
Ça va être encore mieux pour lui, je pense.
Ça va être
encore
mieux pour lui.
C'est un grimpeur, c'est un puncher, c'est un super descendeur, ça c'est clair. Après, maintenant, gagner une étape d'une semaine, peut-être.
Genre Paris-Nice, tu vois, peut-être.
Un petit tour de Californie.
Bien sûr.
Bon, après le mettre en avant pour le tour, non. Au chrono, ça doit être peut-être. Il doit pêcher au niveau du chrono.
Il est bon, il roule bien, ce chrono. Il est très très bon, notamment sur le tour du Pays Basque, où il avait tenu la dragée haute à plusieurs coureurs de très très grande qualité. Hein.
Mais tu disais tout à l'heure que Alaphilippe était le Français en avant. Il faut pas oublier Latour qui a marqué encore plus de points et qui a écarté ses adversaires principaux pour le maillot blanc.
Pour le maillot blanc, effectivement.
Donc,
le jeune coéquipier de Romain Bardet.
C'est excellent. Moi, je trouve qu'on a deux maillots distinctifs français.
Patrick est avec nous au 32-16. Salut Patrick.
Oui, bonsoir.
Et merci d'avoir patienté.
Bonsoir Patrick.
C'est normal. Bon, merci. À vous de m'accueillir.
Bienvenue à toi.
À Luc et à Thierry.
Tu voulais souligner, justement le panache et le côté assez exceptionnel d'avoir un coureur quand même comme Julien Alaphilippe côté français.
Oui, mais en fait pas trop, non.
Ah d'accord. Non, autant pour moi.
Non, mais en fait, je voulais intervenir hier en fait par rapport à l'équipe Sky. Vous en avez, en fait, j'ai l'impression que vous critiquez beaucoup l'équipe Sky par rapport à leur méthode, à leur leur automatisme, le fait que ça soit des robots qui regardent leur truc de puissance, enfin, je sais pas comment ça s'appelle.
Les capteurs de puissance.
Et je pense qu'on critique beaucoup trop, quoi. En fait, ils ont quand même mis en place un modèle qui gagne, quoi. Un modèle qui gagne les grands tours, quoi. Et à partir de là, plutôt que de les critiquer, ils voudraient peut-être un petit peu plus s'en inspirer, quoi, et essayer de voir ce qui marche, parce que si on, j'ai l'impression que si on fait pas à peu près comme ils font, ou si même on n'améliore pas, on gagnera jamais un grand tour, quoi.
Après, il y a plusieurs choses aussi, Patrick, qu'il faut bien signifier quand même à tous ceux qui nous écoutent, c'est que les équipes françaises, puisque tu sembles vouloir un petit peu les critiquer, adhèrent toutes, sans aucune exception, au mouvement pour un cyclisme crédible. Chose à laquelle la Sky n'adhère pas. Puisqu'on fait des comparatifs entre la Sky et les équipes françaises, en l'occurrence, la Sky, ils ont des contrôles antidopage qui ne sont pas tout à fait placés sous le même signe.
C'est un peu trop simpliste.
Mais c'est ni simpliste ni caricatural, c'est une réalité, Patrick.
Pour l'instant, j'en suis pas convaincu puisqu'il n'y a pas de preuves.
Pour un cyclisme crédible, si, c'est une réalité.
Il y a eu quand même quelques affaires entre nous, hein.
Oui, il y en a eu Patrick. Aussi en France, hein, des affaires.
Mais bon, non, bref. Mais
non, le problème,
bien
il est
sûr
pas
qu'il y en a.
Le
non,
problème,
mais
il est pas là. Moi, ce que je veux dire, en fait, tout simplement, c'est que il faut peut-être arrêter de regarder le vélo dans le rétro un petit peu, parce que je trouve que dans ce Tour de France, c'est marrant, mais je vous entends à peu près tous les soirs, et le nombre de fois que j'ai entendu Bernard Hinault, mais ça m'a fait halluciner, quoi.
Ah non, ça m'étonnerait que tu m'aies entendu parler de Bernard Hinault. J'ai pas dû en parler une seule fois depuis la semaine
même
dernière.
C'est Cyril.
Et alors?
Et on l'a chambré là-dessus.
Il faut regarder un petit peu devant. Et je voulais vous demander juste, bon, pour pas trop prendre l'antenne, je voulais vous mettre une hypothèse. Est-ce que si Bardet était leader de la Sky, vous pensez pas qu'il aurait beaucoup de chances de gagner le Tour? Et si, au contraire, Froome était leader de la G2R, je pense qu'il aura aucune chance de gagner le Tour, quoi.
Ben, déjà avec l'équipe qu'ils ont autour d'eux, c'est sûr que il y a plus de chances de gagner le Tour avec la Sky qu'avec AG2R. C'est clair. Mais il y a un problème de budget aussi pour aller chercher les meilleurs.
Trois fois plus important chez Sky que pour AG2R.
La Sky, c'est simple. Je suis d'accord avec toi, c'est que la critique est facile. C'est pas ça. On critique pas forcément. On dit simplement que c'est dommage de voir la suprématie de cette équipe casser un peu le suspense du Tour. Simplement. Parce que quand ils se mettent devant à fond, et demain, moi j'ai peur de ça, s'ils arrivent à se regrouper, ils vont faire exactement la même chose que d'habitude. Ils vont se mettre avec un tempo très haut pour que les autres puissent pas attaquer. Voilà, c'est tout. C'est leur force. Maintenant, il y a pas de critique à avoir. On peut avoir quand même des avis tranchés ou pas sur une équipe.
On remercie Patrick en tout cas d'avoir fait le 32-16. Le mot de la fin, il sera pour toi, Lucho. Demain, cette étape de 65 km, tu crois que ça va être la grosse bagarre, toi?
Bah écoute, on va pas dire que ça va être la grosse bagarre, parce que de toute façon, après, on est tout le temps déçus. On dit, il va se passer ça, ça va être super, ça va être chouette. Et puis, en fin de compte, même si ça fait 65 bornes, je me demande si les favoris vont se faire la guerre entre eux dès le premier col. C'est ce qui me tracasse un petit peu. Parce que stratégiquement, de toute façon, pour les Bardet, pour Roglic, même Dumoulin qui est troisième au général, qui est peut-être sûr de garder sa place ou de faire peut-être un petit peu mieux. Mais je pense que demain, dès le départ, les mecs qui vont être, même s'ils s'échauffent avant le départ, ça va partir à froid, ça va partir à bloc. Donc moi je dis un truc, moi je suis manager d'une équipe comme Bardet ou Dumoulin ou Roglic. Allez, on y va, on fait la guerre dès le départ, quoi. On n'a rien à perdre. De toute façon, les gens se rappellent du classement général, ils se rappellent de qui? Du premier.
Effectivement.
Voilà. À un moment donné, si tu veux baisser au classement général, de baisser de 2-3 places, c'est pas grave, on s'en fout. Mais il faut prendre des risques.
Allez, merci, voilà. Lucho, c'est dit. Voilà,
salut Lucho.
Lucho, on se retrouve demain après cette étape. On va être à bloc. Merci Lucho, merci Bourgui.
Salut Arnaud.
Avec nous dans l'intégral tour sur RMC, 20h27, ça continue dans un instant. On va parler de foot. Tiens, on sera avec Clément Grenier en direct sur RMC. Il vient tout juste de paraffer un contrat de 3 ans avec l'équipe de Rennes en Ligue 1. On est ravis, évidemment, dans un instant, d'en discuter avec lui en direct sur RMC. A tout de suite, 20h27.
RMC, intégral tour, Arnaud Souk.
20h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'intégral tour sur RMC. Je vous rappelle la victoire aujourd'hui lors de la 16e étape du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères de Luchon du français Julien Alaphilippe, qui a même consolidé son avance en tête du classement du meilleur grimpeur, le fameux maillot à poids. Demain, 65 km toujours dans les Pyrénées, ça promet une sacrée bagarre. 3 cols au programme entre Bagnères de Luchon et le col de Portet. À 20h30, on va parler de football et sans plus attendre, on va accueillir notre invité du soir, Clément Grenier, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être en direct, nouveau milieu de terrain du club de Rennes en Ligue 1. Vous avez paraffé aujourd'hui un contrat de 3 saisons. Vous êtes amoureux de la Bretagne, décidément, après Guingamp, Rennes, vous continuez dans le même coin.
Écoutez, oui, c'est vrai que effectivement je reste dans le même coin, mais je suis très heureux d'avoir signé à Rennes pour 3 saisons.
C'est en tout, c'est quoi? C'est le projet qui vous a particulièrement attiré côté Rennais?
Oui, tout à fait. Bon, après Lyon, Rome et Guingamp, voilà, j'avais besoin de continuer ma progression. J'ai pu de nouveau prendre du plaisir à Guingamp. Et aujourd'hui, je signe à Rennes parce que oui, effectivement, le projet me plaît. Le discours du président et du coach m'ont tout de suite plu. Et voilà, donc je continue l'aventure dans un club français et aujourd'hui à Rennes. Donc je suis content de. Je suis content aujourd'hui d'avoir signé ici.
On rappelle que vous avez passé 9 ans en professionnel du côté de l'Olympique Lyonnais. Vous avez joué quelques matchs également en Serie A avec l'AS Rome. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement parce que ça s'est pas très très bien fini, en tout cas pas très bien sur le plan sportif du côté de l'Olympique Lyonnais. Vous êtes bien repris justement du côté de Guingamp. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de soulagement de pouvoir passer à un club comme Rennes qui joue malgré tout le temps non pas les premiers rôles, mais en tout cas un rôle dans la première partie du classement général de la Ligue 1.
Non, il n'y a pas de soulagement, je crois, dans le sport de haut niveau. C'est une remise en question permanente. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé à Lyon. Mais j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu une envie énorme pour toujours progresser et atteindre les objectifs. J'ai pris le risque, entre guillemets, de quitter Lyon pour un club un petit peu moins épais à Guingamp. Et voilà, je crois que mon pari a été réussi. J'ai pu enchaîner les matchs, jouer, être performant, avoir des bonnes statistiques qui me permet aujourd'hui de pouvoir venir dans un club qui a terminé cinquième du championnat, qui compte chaque année en Ligue 1 et qui va pouvoir jouer aussi l'Europa League. Donc pour moi c'est le scénario, on va dire, parfait. Je continue d'avancer, je continue de progresser, je retrouve la Coupe d'Europe. C'était important pour moi et voilà, j'ai hâte de commencer pour déjà de nouveau enchaîner et la compétition avec le Stade Rennais.
Vous avancez, vous progressez. Clément Grenier, nouveau joueur du Stade Rennais, vous avez participé, vous avez été sélectionné, je veux dire, sous tous les maillots de toutes les équipes de France possibles et imaginables, moins 17, moins 18, moins 19, moins de 20, en espoir, en A également, 5 sélections. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous trotte encore dans la tête? Et encore plus, j'ai envie de dire, quand on a vu le parcours de l'équipe de France cet été à la Coupe du Monde?
Oui, tout à fait. Je pense que quand on y a goûté, on a toujours envie d'y retourner, surtout avec le parcours qu'ils ont fait cet été, en gagnant cette belle compétition, ramener la coupe en France, ça donne toujours envie. Voilà, c'est un objectif évidemment personnel, mais avant ça, voilà, je pars du principe que c'est avant tout un sport collectif et qu'il faut être performant dans son club. Et quand on est performant dans son club au niveau collectif, on est souvent récompensé individuellement. Voilà, j'ai choisi ce club pour le projet, j'ai choisi de rester aussi en Ligue 1 parce que je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire encore en Ligue 1. Voilà, je pense que l'équipe de France a montré la voie aussi et que voilà, chaque joueur français a envie d'y retourner, mais a surtout envie de briller, de rester sur cette continuité. Voilà, tout ça fait que aujourd'hui je suis content d'être évidemment français, je suis content de pouvoir continuer d'avancer, de pouvoir remplir et atteindre des objectifs, mais voilà, une nouvelle aventure, on va dire, démarre et aujourd'hui c'est avec le Stade Rennais, donc je suis ravi.
Tiens, vous avez gagné, je crois, des trophées justement en U19 avec Antoine Griezmann. Est-ce que vous l'avez eu depuis le titre de champion du monde?
J'ai simplement félicité. J'ai félicité aussi tous les joueurs que j'ai côtoyés et que je connais en équipe de France. Évidemment, c'est toujours un réel plaisir de voir des amis soulever ce trophée magnifique. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir connaître l'équipe de France. Ça donne toujours envie et voilà, j'espère y retourner un jour. En tout cas, je me donnerai les moyens de d'y retourner. Et puis, si ça réussit, tant mieux. Et puis, sinon, j'aurai pas de regrets parce que j'aurai toujours tout donné dans chaque club auquel j'ai appartenu.
Et ça passera nécessairement déjà par une très belle saison avec Rennes. Vous avez brièvement évoqué vos objectifs justement avec Rennes. En tout cas, vous êtes content de retrouver la Coupe d'Europe la saison prochaine, la Ligue Europa. Ça va être quoi, Clément Grenier, les objectifs justement de Rennes? Est-ce que vous avez pu en discuter concrètement avec les dirigeants, dire par exemple on va viser un top 5, viser un top 10?
On a parlé d'un projet global. Je crois que c'est un club qui a énormément d'ambition. Le coach a de l'ambition, mais ce sont des gens humbles et un club très humble aussi. Donc voilà, je crois que Il faut rester humble, il faut s'enrichir, prendre de l'expérience au niveau européen, mais ça passe avant tout par de belles performances en championnat, parce que c'est aussi un petit peu la locomotive qui permet d'être en confiance et performant en Europa League. Effectivement, voilà, on est compétiteur, on a toujours envie de plus et de gagner, mais voilà, je crois qu'on a une équipe très jeune mais avec beaucoup de potentiel et de talent. C'est ce qui a aussi fait pencher la balance. Voilà, donc tout ça, ce projet global me permet d'avoir de vrais objectifs et de vraies ambitions avec le Stade Rennais.
Est-ce que vous envisagez des parallèles entre ce club de Rennes et l'Olympique Lyonnais dans la manière, dans l'évolution, l'Olympique Lyonnais que vous connaissez bien puisque vous avez passé, je le rappelle, plusieurs saisons?
Oui, ça peut l'être. Après, c'est très on va dire que c'est tout jeune. L'Europa League, pour eux, ils ont connu la Coupe d'Europe par le passé, mais voilà, je crois que les 6 derniers mois ont montré de belles choses. Il faut être dans cette continuité-là, toujours avoir envie de progresser, de travailler. Évidemment que la comparaison est toujours très compliquée parce que Lyon a gagné beaucoup de titres à une période fantastique. Voilà, des choses, ils sont, on va dire, un peu en avance, mais ce sont ces clubs-là qui nous permettent aussi de progresser et d'avoir un championnat très attractif. Mais je crois que le Stade Rennais a toujours compté en Ligue 1 et continue de le faire actuellement. Il faut simplement essayer d'accrocher ce wagon devant. C'est pas toujours évident, il faut de la régularité, de l'expérience, beaucoup de travail et aussi beaucoup d'humilité, je crois. Et voilà, la remise en question du groupe et de chacun nous permet de pouvoir faire de belles performances. Donc voilà, en arrivant ici, je suis très content et j'espère que, en tout cas, toutes ces choses-là seront réunies pour qu'on fasse tous une grande saison.
Merci beaucoup Clément Grenier d'avoir été en direct sur RMC.
Merci à vous. Bonne soirée.
Belle soirée à vous et bonne saison donc du côté de Rennes. Clément Grenier, l'ancien milieu de terrain international de l'Olympique Lyonnais, qui a paraphé aujourd'hui un contrat de 3 saisons. La Ligue 1, évidemment, on va beaucoup en parler hein, dans les prochaines semaines. Elle reprendra le 10 août avec un match entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. Rennes, ce week-end-là, jouera également. Ce sera du côté de Lille. Juste avant ça, une semaine avant, il y aura eu le trophée des champions avec le Paris Saint-Germain et Monaco qui seront affrontés le 4 août du côté de Shenzhen en Chine. Le PSG, les joueurs du PSG, 23 joueurs du PSG pour être précis, qui sont quelque part là au-dessus de l'Asie, sans doute dans un avion direction Singapour pour aller jouer l'International Champions Cup. Ça devient une mode, on va dire, pour les clubs européens de s'exporter en Asie. Bah justement, pourquoi s'exporter à tout prix en Asie? On est avec Virgile Caillé, spécialiste des questions d'économie du sport, pour en parler. Bonsoir Virgile.
Bonsoir à vous.
Et merci d'être avec nous. Pourquoi c'est si important pour le PSG d'aller à la conquête de l'Asie et de manière de plus en plus régulière?
Écoutez, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est plus qu'un club de foot, hein, masqué un club, on pourrait dire. C'est clairement une franchise sportive, une franchise sportive internationale, hein, un petit peu à l'image des franchises américaines. Et donc le terrain de jeu, c'est pas uniquement la Ligue 1, c'est pas uniquement la France, c'est tout simplement le monde. Et donc il faut aller à la conquête de nouveaux territoires. Et dans les marchés ciblés par le Paris Saint-Germain, il y a en priorité le continent asiatique. Il y a également les États-Unis, il y a également l'Amérique du Sud, mais il est clair que le continent asiatique et le Moyen-Orient sont des terrains de chasse, si j'ose dire, le terme n'est peut-être pas approprié, mais en tout cas des terrains privilégiés pour développer la marque. Alors c'est vrai que la marque Paris possède déjà de formidables atouts pour s'exporter, mais pour le club de football, eh bien, il faut amener autre chose, il faut amener des stars, faut faire rêver, faut amener toute une dimension un peu expérientielle, comme on dit. Et c'est le travail que mène depuis déjà plusieurs années le Paris Saint-Germain.
Ça serait rater un virage justement que de ne pas suivre tous ces clubs comme le Bayern Munich et surtout les clubs britanniques. Ça serait rater un virage pour le PSG. C'est un passage obligé, je veux dire. C'est the place to be.
C'est une figure imposée. Clairement, c'est une figure imposée sur le plan économique, en tout cas. Le développement, il se fera à partir du moment où le Paris Saint-Germain, et c'est déjà presque le cas, deviendra incontestablement une plateforme de communication mondiale, c'est-à-dire un actif de communication pour la Terre entière, tous les continents. Et là, effectivement, on peut aller séduire des partenaires, des sponsors de dimension planétaire. Donc c'est le cas déjà avec le Paris Saint-Germain, qui est rentré dans ce cercle fermé, on va dire des 10-15 clubs capables de vendre leur image partout dans le monde. Alors le Paris Saint-Germain, on va dire, est un des derniers entrants, mais il apprend vite, il va vite, il grossit vite. Il a réussi à structurer un peu ses démarches et ses deals, ses partenariats en Chine. Il y était ce printemps, ils ont construit pas mal de choses ce printemps. Il y a des choses assez étonnantes qui ont été montées, y compris sur le terrain du e-sport. Alors ça peut paraître surprenant, on se dit, mince, c'est plus du foot. Mais ce sont les supporters de demain. Oui. Donc le Paris Saint-Germain a un volant d'activité ou d'activation assez impressionnant.
C'est facile de rattraper le retard sur des clubs comme Arsenal, comme Chelsea, comme Manchester United, qui sont déjà implantés depuis de très très nombreuses années à cet endroit-là de la planète ?
Ouais, objectivement, c'est très compliqué. Très compliqué parce que il faut avoir les réseaux, il faut être crédible, ça veut dire qu'il faut avoir un projet à la fois sportif et à la fois marketing, médiatique, qui soit crédible. D'où les premières années, l'importance pour le Paris Saint-Germain d'avoir des têtes de gondole comme David Beckham, comme Zlatan, Ibrahimovic, parce que ça, tout de suite, ça permet de crédibiliser un peu la démarche. Et quand on va en Chine et qu'on a le maillot du Paris Saint-Germain floqué Beckham, eh bien ça parle immédiatement aux acteurs de la région. Donc il faut avoir les bons réseaux, faut être crédible, et puis c'est aussi du temps pour prospecter le terrain, pour négocier. Enfin, je veux dire, d'habitude ça prend beaucoup de temps. Heureusement que le Paris Saint-Germain a la surface financière qui lui permet de gagner quelques étapes, en fait.
Est-ce que aller faire une tournée en Asie, alors certes avec Gianluigi Buffon, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le gardien international italien aux 160 sélections justement avec la nationale, est-ce que c'est une erreur malgré tout de ne pas emmener Neymar, enfin que Neymar ne soit pas dans l'avion là qui est en train de rallier Singapour justement pour aller jouer ces deux matchs amicaux?
Je sais pas si c'est une erreur. Pardon,
enfin, est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça peut compter plus exactement?
Oui, clairement. Clairement parce que Neymar est un point clé, c'est vraiment au centre du jeu pour le développement international du Paris Saint-Germain. Lorsque le Paris Saint-Germain recrute Neymar, certes c'est un joueur de foot, certes c'est un futur Ballon d'Or et un des tout meilleurs joueurs mondiaux, mais c'est aussi surtout un formidable actif marketing et médiatique. Ce garçon parle à des dizaines de millions de followers, il y a une communauté incroyable. Donc oui, c'est une porte d'entrée pour tout un tas de territoires. Donc sa présence, elle est importante, au même titre qu'un certain nombre de joueurs brésiliens, parce que vous savez qu'ils restent un peu les icônes de toute cette partie de l'Asie. On parle aussi de l'Indonésie, la Thaïlande, etc., qui sont des marchés avec un potentiel considérable. Donc la présence de Neymar serait préférable. Et je pense qu'un certain nombre de mondialistes vont les rejoindre sur place à Singapour, puisqu'ils partent à Singapour pour jouer le tournoi auquel ils participent d'ailleurs depuis 4-5 ans, l'International Champion Cup. Ce qui prouve bien qu'ils font partie maintenant des franchises footballistiques importantes.
Virgile Caillé, spécialiste des questions notamment en matière d'économie du sport, est avec nous en direct sur RMC pour essayer de décrypter un petit peu le pourquoi du comment du Paris Saint-Germain qui s'exporte comme cela en Asie, qui va jouer des tournois de préparation avec tous les grands de ce monde. Est-ce que la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, ça peut aussi aider le Paris Saint-Germain à mieux s'exporter ? Ou pas.
C'est un formidable accélérateur, parce que on a vu
pour le PSG, pour les autres d'ailleurs,
mais complètement, globalement pour l'ensemble du football français. Alors en plus, il y avait eu des éléments intéressants puisque la Ligue 1 avait réussi à trouver un accord avec CCTV, qui est la plus grande chaîne de télé en Chine, pour diffuser des images de Ligue 1. Alors ça sera pas tout de suite, ça sera dans quelques mois, mais en tout cas ça s'accélère et les clubs de football professionnels français vont être mieux exposés en Chine. C'était un petit peu un point faible jusqu'à présent puisqu'on était diffusé uniquement sur le net. Donc ça, c'est une dimension supplémentaire et forcément, c'est un accélérateur, à la fois pour les joueurs français et les clubs français, et puis parce que dans la plupart des équipes nationales, il y avait également des joueurs qui jouaient en Ligue 1 et qui jouaient pour certains au Paris Saint-Germain. C'était le cas en Allemagne, c'était le cas en Argentine, en Uruguay avec Cavani, au Brésil bien évidemment avec plusieurs joueurs. Donc vous le voyez, ça crée une ambiance extrêmement favorable, beaucoup de crédit autour du football français. Et évidemment, on est face à des publics qui ont cette capacité à s'enflammer, assez incroyable. Ce sont tous des fans en puissance, donc ce sont des publics à conquérir.
Bon, il y a une question qui brûle les lèvres de tous les supporters du PSG, Virgile Caillé. Est-ce que c'est parce que le PSG s'exporte en Asie qu'il va gagner la Ligue des Champions?
je pense pas qu'il y ait un rapport de cause à effet. En revanche, je pense que c'est l'année ou jamais, parce qu'il y a à la fois des revanchards, en tout cas des gens qui ont des choses à prouver, comme Neymar, comme d'autres. Il y a des gens qui se sont bien reposés, comme Verratti, et puis il y a des gens qui sont sur un nuage, comme Mbappé. Je trouve que le cocktail, l'alchimie pourrait bien prendre, et ça pourrait bien être l'année du Paris Saint-Germain.
Merci Virgile Caillé.
Merci à vous.
Merci d'avoir été en direct donc sur RMC pour toutes ces questions liées au déplacement du Paris Saint-Germain, cette préparation d'avant-saison du côté de l'Asie. Match samedi face à Arsenal. Elle s'en suivra un match face à l'Atlético. Ce sera deux jours plus tard, l'Atlético Madrid. Et puis le trophée des champions, ça sera le 4 août du côté de Shenzhen en Chine. L'intégral tour continue dans un instant. On va continuer à parler de football et notamment de toute l'actu du mercato, tout ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur la planète du marché des transferts footballistiques. C'est dans un instant. Je vous rappelle juste la victoire aujourd'hui de Julien Alaphilippe lors de la 16e étape du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères de Luchon. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
20h49, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Tour. On est ensemble encore pendant quelques minutes à partir de 21h. C'est l'after qui prendra le relais. Mais d'ici là, on continue à vous parler de football et notamment à vous parler de mercato.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Jordan Olivier de la rédaction RMC Sport nous a rejoint. Salut Jordan.
Salut Arnaud, salut
à
tous.
Et c'est officiel, Malcolm rejoint le FC Barcelone après avoir failli signer à l'AS Rome. Donc le Brésilien s'engage finalement avec le champion d'Espagne.
Et oui, ce sont les Girondins de Bordeaux qui l'ont annoncé en fin de journée sur Twitter. Malcolm s'est engagé avec le FC Barcelone, montant de la transaction 41 millions d'euros plus 1 million d'euros en bonus. Le 1 million est important. Pressenti un temps à l'AS Rome, tu l'as dit Arnaud, Malcolm a finalement paraffé aujourd'hui son contrat pour une durée de 5 ans.
Et ça va faire des malheureux, même s'il s'y attendait forcément du côté de Bordeaux. Anthony, supporter des Bordelais, des Girondins, est avec nous. Salut Anthony.
Ouais, salut messieurs, ça va?
Oui, ça va et toi? Enfin, ça va.
Ouais, ça va
malgré le départ de Malcolm. Mais bon, tu t'y attendais, j'imagine.
Oui. Non, mais complètement. C'était une question de timing. On le sait depuis un moment. Son départ, une perte, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce qu'on a un tour préliminaire à jouer contre des Lettons, donc j'espère que ça va le faire quand même sans lui. Après, comment on va être racheté? Eh ben voilà, je me dis que bon, Malcolm, voilà, je pense que la page se tourne, c'est bien pour lui, parce qu'à Bordeaux, de toute façon, il stagnait. À Bordeaux, il n'y a rien à lui proposer d'intéressant pour l'instant. Maintenant, dans une semaine, ça sera peut-être différent. Très très différent.
Tu es pessimiste pour la saison à venir? Ambitieux,
non, pas du tout,
inquiet?
Non, pas du tout. On s'était eu déjà dimanche soir.
Oui.
Et du coup, moi je reste sur la même ligne de conduite. C'est-à-dire que là, on va être racheté. C'est qu'une question de, une question d'heure, une question de jour. Mais voilà, il y a déjà des pistes concrètes qui sont prêtes à être conclues. Donc non, inquiet, pas du tout, ambitieux. On va voir par rapport au projet, par rapport à la com qui va se faire, mais soulagé de voir Mtis partir. Donc après, qu'on s'y trompe pas, les 40 millions, on va pas en voir la couleur. Mtis va partir avec, ils vont aussi partir avec les 12 millions de Pablo, et puis voilà. Donc soulagé que Mtis s'en aille, qu'on essaye d'avoir un minimum d'ambition au moins pour se tirer la bourre avec Marseille ou Lyon. Donc voilà, je pense que cette année ça va être une surprise pour beaucoup de monde, et je pense, contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que ça va être une très bonne surprise.
Bon,
voilà, je peux pas en dire plus.
C'est tout le mal qu'on
peut faire. Mais après voilà, on sait des choses à Bordeaux qu'on peut pas encore divulguer, mais il y a encore beaucoup de choses et c'est très prometteur.
Merci Anthony, en tout cas, d'avoir été avec nous au 32-16, supporters des Girondins de Bordeaux. Belle soirée à toi. On continue avec les infos mercato du jour, Jordan. Autre officialisation, João Moutinho file en Angleterre.
Et oui, le Portugais signe à Wolverhampton, c'est fait. Monaco l'a annoncé encore une fois sur Twitter il y a quelques minutes. Le Portugais signe un contrat de 2 ans en faveur du promu anglais. Moutinho était arrivé sur la principauté, en 2013. Voilà, sur le rocher.
Martin Terrier et Léo Dubois ont été présentés aujourd'hui à Lyon en conférence de presse. L'occasion pour le président Jean-Michel Aulas de faire un point sur le mercato du côté des départs. Et il a notamment évoqué les cas de Nabil Fekir et de Marcelo.
Nabil Fekir était tout proche de rejoindre Liverpool avant la Coupe du Monde, on s'en rappelle. Transfert finalement avorté le 9 juin après la visite médicale. Jean-Michel Aulas a évoqué l'avenir du néo-champion du monde. Le président lyonnais estime qu'il serait difficile pour Nabil Fekir de trouver mieux ailleurs. Une manière détournée pour Jean-Michel Aulas d'affirmer sa volonté de conserver Fekir à l'Olympique Lyonnais. Et il semblerait que ce soit la même chose pour Marcelo. Le Brésilien est courtisé en Angleterre, mais Jean-Michel Aulas ne semble pas disposé à le laisser partir.
J'ai vu qu'il était en contact avec beaucoup de clubs anglais. Et je peux vous dire que son président ne veut pas le laisser partir. Moi, je crains rien du tout. S'il part, c'est qu'on y aura trouvé notre compte. Et on va tout faire pour qu'il parte pas. De toute façon, quand un joueur veut absolument partir, il s'y prend très tôt et différemment. Voilà, on aura sûrement encore à la fin, bon, je crois que le marché anglais ferme le 9. Donc la semaine avant le 9, il y aura sûrement un peu de tempête.
Voilà, donc le président Jean-Michel Aulas qui était en conférence de presse aujourd'hui côté arrivé, justement, il a aussi parlé, Jean-Michel Aulas, Lyon qui est en quête d'un défenseur central. Il semblerait qu'un profil ait été identifié.
Il s'agit effectivement de Yuri Mina, le défenseur du FC Barcelone. Lyon a fait une offre, 30 millions d'euros au club catalan pour s'attacher les services du solide défenseur colombien qui, on le rappelle, a disputé la dernière Coupe du Monde. Problème, la concurrence est féroce sur ce dossier. On savait que Mina était en contact avec Everton, mais Manchester United a également manifester son intérêt. Il semblerait que Jean-Michel Aulas suive ce dossier de tout près.
David, supporter de l'Olympique Lyonnais, est avec nous justement pour parler de Mina. Salut David.
Oui, salut tout le monde.
Est-ce que cette idée de voir Yuri Mina du côté de l'Olympique Lyonnais te ravit?
Oui. Moi, c'est un défenseur qui m'avait marqué déjà au match avant la Coupe du Monde, parce qu'on dit qu'il faut se méfier de l'effet Coupe du Monde. Mais avant la Coupe du Monde, la France a joué la Colombie, a même perdu contre la Colombie. Et Yuri Mina, moi déjà, bon, c'est un joueur que je connaissais avant. Je savais qu'il avait signé c'était un joueur de Barcelone, mais c'est un joueur effectivement qui a montré son niveau, un peu dans le profil de Marcelo, mais à mon avis en meilleur. Athlétique et tout. On sait que Lyon va avoir énormément de matchs cette année avec la Ligue des Champions et le championnat. Il faut se renforcer dans ce secteur, c'est annoncé depuis longtemps. Alors moi, c'est ça qui aujourd'hui m'ennuie un peu. Me met 2 secondes à la place du staff. C'est pourquoi tous ces dossiers-là traînent tellement. Et la prépa a commencé. Il y a déjà 2 matchs de jouer. Il y a déjà un stage de fait. Je pense que le staff a besoin de joueurs tout de suite. Le recrutement, finalement, 6 mois avant de Dubois et de Terrier. Eh ben, c'est bien, parce qu'au moins, Genesio, il part en stage, il sait sur qui compter. Moi, j'ai du mal à comprendre, même si c'est toute une affaire d'argent, d'agent, etc., de tractation, mais quand même, qu'il y ait très peu de clubs qui aujourd'hui aient déjà finalisé des choses. On voit ce qui se passe, par exemple, au Paris Saint-Germain. C'est long, quoi. Les gars jouent des matchs amicaux jamais avec les titulaires. D'un coup, les mecs qui vont arriver, le championnat est limite commencé, voire même est commencé, vu que ça va jusqu'au 31 août. C'est des effectifs totalement chamboulés à chaque fois. Voilà, c'est difficile. Moi, je pense que l'équipe la plus près tout de suite, et ben finalement, c'est certainement celle qui débute le mieux et les staffs savent sur qui compter. Donc Yuri Mina, c'est certainement une bonne idée, mais à un moment, voilà, c'est où on a l'ambition de se dire 30 millions, on peut, ou même 35 si Manchester met plus. Que veut vraiment le joueur? Enfin voilà, on ne sait pas tout, hein, nous en tant que supporters, etc. Oui, même vous.
Et nous non plus, effectivement.
Que ces dossiers-là aboutissent, que ce soit oui ou non, c'est très important pour un staff. Quoi.
Merci David, supporter de l'Olympique Lyonnais, d'avoir été avec nous. Belle soirée à toi. Et donc on suivra ce dossier Yuri Mina de près, évidemment. Andy Delors, lui, a été présenté aujourd'hui à Montpellier. Le joueur a été prêté 1 saison par Toulouse.
Un prêt avec option d'achat pour Andy Delors et Roltais de naissance. Le joueur s'est dit très satisfait de rejoindre Montpellier, où il portera le numéro 11. Pour rappel, Andy Delors, la saison dernière, c'est 5 buts et 5 passes décisives avec Toulouse.
Quand on vient de trouver son attaquant attaquant tant recherché. Il s'agit de Yacine Bamou.
L'ancien Nantais s'est effectivement engagé 4 ans avec le club normand. Le montant du transfert se situe entre 2 et 2,5 millions d'euros. Le Marocain a peu joué la saison dernière, simplement 16 matchs de Ligue 1 pour 3 buts inscrits.
Et puis après West Brom, Gregor Krychowiak va de nouveau être prêté. Le milieu de terrain du PSG prend cette fois la direction de la Russie.
Le Polonais file effectivement Lokomotiv Moscou, un prêt avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. Krychowiak qui n'aura jamais réussi à s'imposer véritablement au Paris Saint-Germain. 11 matchs de championnat seulement avec le club de la capitale. On le rappelle, le joueur avait été acheté 27,5 millions d'euros au FC Séville.
Merci Jordan Olivier. Toutes ces infos Mercato sont à retrouver sur notre site rmcsport.fr. Il est 20h57. L'intégral tour s'arrête mais reviendra demain à partir de 14h. D'ici là, vous avez reconnu la petite musique. Celle du Super Football Show, celle de l'After. Salut Christophe Léné.
Salut Arnaud, salut à tous. C'est un programme très riche dans l'After ce soir. Thierry Henry à Aston Villa. Ça chauffe. Peut-il réussir, lui qui n'a jamais encore entraîné en tant que numéro 1. Débat également autour du football de possession. La parole donnée a-t-elle toujours un sens dans le foot autour du cas Malcolm, Cristiano Ronaldo, Maradona, le Mercato Show, le quiz, des surprises, tout ça et plus encore. C'est dans un instant sur RMC dans l'After Foot. On vous attend au 32-16. Soyez là. À tout de suite.